RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, soyez les bienvenus dans le club de C'est pas du vent avec les journalistes de RFI en français et en langues étrangères. Et oui, nous sommes fiers d'émettre en 15 langues et aussi avec des journalistes d'autres médias. Nous revenons tous les mercredis sur les événements de l'actualité environnementale qui nous ont marqués et nous partageons avec vous nos réflexions. Aujourd'hui, nous allons entre autres parler des écocides en cours en zone de guerre, du pic des émissions de gaz à effet de serre en Chine, d'un procès d'activistes au Cambodge et de la crise de l'eau à Mexico. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et cette semaine, nous sommes ravis d'accueillir Jennifer Gallet de Vert, le média en ligne qui annonce la couleur et que l'on peut lire sur vert.eco. Bonjour Jennifer.
Tout à fait. Bonjour Anne-Cécile. Ravie d'être avec vous sur RFI.
Mais nous sommes ravis de vous accueillir. Et pour les journalistes maison, ils sont trois avec nous dans ce studio. Bonjour Simon Rosé.
Bonjour Anne-Cécile. Bonjour à tous.
Chef du service environnement de RFI, composé, je le répète parce que nous en sommes très fiers, de 9 journalistes qui travaillent à plein temps sur cette thématique. Et parmi ces journalistes, il y a vous, Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous.
Alors je vais essayer de tester mon cambodgien. Saosde Heng Hudom.
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là, mais vous êtes journaliste à la rédaction cambodgienne de RFI. Alors pour débuter cette émission, je vais vous demander à chacun de me dire ce qui vous a surpris dans l'actualité récemment, Jennifer.
Oui, alors moi, ce qui m'a surpris, c'est quelque chose qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Il y a 190 pays qui se sont entendus sur un traité pour lutter contre la biopiraterie. Alors la biopiraterie, c'est quoi? C'est le fait pour des organismes de recherche ou des entreprises de s'approprier illégitimement via le dépôt de brevets des ressources, de la biodiversité, des connaissances des peuples autochtones. Alors un cas concret de ça, ça a été la bataille en 2015 autour de la stevia. C'est une plante qu'on trouve en Amazonie, qui est connue des Amérindiens du Brésil et du Paraguay depuis des siècles pour ses propriétés édulcorantes et qui est désormais utilisée massivement par l'agroalimentaire, mais tout ça sans aucun partage des bénéfices. Donc ce traité, après plus de 20 ans de négociations, il a abouti à obliger en fait les déposants de brevets d'indiquer désormais quelles sont l'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels qui sont utilisés dans leurs inventions. Donc ça, c'est une véritable avancée et c'est une bonne nouvelle.
Voilà, et nous vous en parlions dans Question d'environnement, hein, la chronique environnement de RFI tous les matins sur notre antenne. Simon, vous vouliez parler des pays riches qui tiennent enfin leur promesse.
Et oui, un chiffre, 115,9 milliards de dollars, c'est ce qu'ils ont donné en 2022 aux pays en développement. On s'en souvient, c'était la promesse faite à Copenhague en 2009. Les pays riches sont engagés alors à horizon 2020 à donner 100 milliards de dollars par an. Il a fallu 2 ans de plus que prévu. Ça a été la source de nombreuses tensions lors des négociations climatiques, parce que là, on parle un peu de responsabilité, de dette morale des pays riches responsables du réchauffement climatique envers les pays en développement. Donc on pourrait dire, ouais, c'est chouette, ils tiennent leur parole, sauf que 70% de cette somme, c'est des prêts, avec
voilà,
des taux d'intérêt pas forcément
super avantageux,
et qu'il faudrait bien plus, puisque ce chiffre de 100 milliards, il est un peu sorti du chapeau à Copenhague, c'était un marqueur politique, un affichage, ça faisait bien. Ça va être tout l'enjeu de Bakou, la COP29, qui va se tenir en fin d'année, réévaluer, renégocier à la hausse ce montant. On va voir si les pays riches iront dans ce sens ou pas. Pour l'instant, en tout cas, les premières négociations sont plutôt compliquées.
Oui, parce qu'on le répète, hein, le changement climatique affecte surtout les plus vulnérables, qui ont donc moins de moyens financiers pour s'adapter aux conséquences du changement climatique et pour atténuer leurs propres émissions. Igor, vous vouliez nous emmener à Gaza.
Ouais, pour une histoire un peu tragique et poétique, à l'heure où des milliers de civils meurent dans la bande de Gaza, il y a un homme, Fatih Ahmed Goma, qui est l'ancien gardien de zoo de Rafah. Il fallait, voilà, il y avait un zoo à Rafah. Il a décidé de sauver les animaux. Il a sauvé des lions, des babouins. Il n'a pas pu tous les sauver. Il a dû libérer des aigles, des faucons, faute de cage. Mais de savoir qu'un homme se bat, il a construit une étable dans laquelle il y a un cerf. Il a dû rehausser les murs pour ne pas que le cerf se sauve. Il a sauvé des lionceaux. Bon, d'autres en sont morts, évidemment. Mais dans ce contexte tellement tragique de la guerre à Gaza, je trouve ça à la fois décalé, magnifique, tragique, poétique, qu'un homme se batte pour sauver des animaux.
En effet, c'est une belle histoire. Bravo à lui. Et nous allons justement parler un peu plus en détail de guerre et d'environnement.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Les guerres font des victimes humaines et matérielles, mais elles détruisent aussi de manière souvent irréversible l'environnement. Et Jennifer Gallet, avec le média en ligne Vert, vous vouliez nous parler de ces initiatives qui se multiplient pour tenter de mieux prendre en compte et faire reconnaître ce que l'on appelle les écocides. Alors ce n'est pas uniquement dans les contextes de guerre, les écocides, mais disons qu'il y en a particulièrement en contexte de guerre. Ce sont des destructions massives des écosystèmes.
Oui, tout à fait, Anne-Cécile. Alors, l'écocide, c'est en effet une destruction qui souvent conduit à un phénomène irréversible. On ne pourra plus jamais retrouver les capacités des écosystèmes comme c'était le cas auparavant. Et moi, je voudrais vous parler de ce sujet parce qu'on a publié récemment un article d'une journaliste qui est basée en Syrie, qui s'appelle Lise Mauvais, et qui nous a un peu expliqué toutes les destructions en cours à Gaza. Toutes ces destructions qui sont le fait de cette guerre qui a démarré depuis le 7 octobre 2023. Et elle nous apprend, alors, dans son article qui est très fouillé, il y a un constat avec pas mal de chiffres. Alors, je ne vais pas tous vous les donner parce que c'est un caractère un peu compliqué. Mais oui. Par exemple, 45 000 bombes qui s'abattent sur Gaza pendant les trois premiers mois du conflit. Alors, on sait qu'il y a plus de 35 000 victimes à Gaza. Et il y a aussi 37 millions de tonnes de gravats qui sont générés par cette guerre. Des gravats qui sont gorgés de produits chimiques, de métaux lourds et de centaines de milliers de tonnes d'amiante. Donc ça donne une idée en fait du caractère systémique de cette pollution. Et pour déblayer tout ça, il va falloir des années, des dizaines d'années. Les Nations Unies ont indiqué qu'il allait falloir à peu près 14 années pour les déblayer. On ne parle même pas de les traiter ni de dépolluer, juste pour déblayer. Et puis après, vous avez d'autres types d'impact, comme les destructions d'infrastructures. Et là, on pense forcément tout ce qui permet de rendre l'eau potable. Et puis ensuite, toute la gestion des déchets. Où est-ce que les gens qui continuent à vivre dans ce territoire qui est sous les bombes font quotidiennement pour s'approvisionner en eau, pour gérer leurs déchets? Tout ça, ça devient extrêmement problématique. Et cette pollution, elle entraîne en fait un caractère, comme on le disait, irréversible en fait de ces atteintes. Et on sait aujourd'hui, par notamment une ONG qui s'appelle Forensic Architecture et qui travaille sur cette question, on sait que 40% des terres arables de l'enclave ont été détruites et que sur les 7500 fermes où il y a beaucoup de serres pour cultiver la terre, il y a 2000 serres qui ont été détruites. On suppose que ça ne va pas s'arrêter. Et on a aussi un impact terrible sur les oliviers, les fruitiers, dont la moitié ont été tout simplement abattus. Donc, en fait, voilà, là, on comprend bien ce que ça veut dire écocide. Écocide, ça veut dire on détruit l'environnement. Mais l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que l'environnement, ça ne soit pas juste considéré comme une victime collatérale de la guerre. Il faudrait qu'on puisse punir ce crime spécifique de s'attaquer à l'environnement pour détruire des populations. Et ça, c'est un travail qui est fait par des juristes, par des scientifiques. Voilà.
Alors justement, est-ce qu'il existe aujourd'hui des textes dans le droit international pour protéger l'environnement pendant les conflits?
Alors oui, il y a en effet des dispositions. Je peux vous citer dans le cadre de la Cour pénale internationale, par exemple, il y a un article, l'article 8B du statut de Rome, qui est le texte sur lequel repose la fondation de la Cour pénale internationale. Et en fait, cet article, il nous dit qu'on pourrait poursuivre des individus qui auraient dirigé intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causerait des dommages étendus, durables, graves et serait manifestement excessif par rapport à l'avantage militaire attendu. Bon, tout ça, c'est des définitions un peu techniques. Mais le problème qu'on a aujourd'hui dans le droit international, c'est que étendue, durable, grave, c'est pas défini. Donc on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc on ne peut pas vraiment attaquer, en fait.
Alors, dans cet article, vous lui demandiez si Vladimir Poutine pourrait être un jour poursuivi devant une juridiction internationale pour crimes contre l'environnement.
Alors oui, en effet, on parle de cet article qu'on a publié aussi pour aborder cette question des écocides. On avait interrogé une juriste qui est spécialiste du droit de la guerre et de l'environnement. Et elle nous avait expliqué qu'en fait, potentiellement, on pourrait attaquer l'individu Vladimir Poutine, par exemple, dans le cadre de la destruction du barrage ukrainien de Kakhovka, qui avait vachement marqué les esprits. On se souvient, ce déversement de...
Les images étaient extrêmement impressionnantes.
Avec tous les morts et les dégâts consécutifs. Il faudrait être en capacité de prouver qu'il y a une responsabilité individuelle de Vladimir Poutine et que s'il y avait une intention. Alors, établir tout ça avec des preuves matérielles, on voit que c'est extrêmement compliqué. Donc oui, ça existe, mais c'est très difficile de mobiliser le droit international pour poursuivre pour de tels crimes.
Donc c'est très complexe. Alors par quoi est-ce que l'on pourrait passer pour une meilleure prise en compte de ces atteintes à l'environnement pendant les conflits?
Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de se projeter au niveau des négociations de paix. Parce que en fait, ce qui est souvent indiqué, c'est que c'est à ce moment-là qu'on pourrait mettre des clauses environnementales pour dire, l'environnement, il a été détruit, il y a des pollutions systémiques.
Une sorte de devoir de réparation.
Devoir de réparation. Il faut prendre en charge la remise en route des infrastructures, la dépollution. Il faut que ça soit co-géré, partagé. Et surtout, pourquoi? Parce que l'environnement, c'est une cause potentielle de conflit, puisqu'il faut qu'on ait accès à des ressources. Donc, on voit bien avec notamment l'eau, qu'on peut se battre pour avoir accès à une ressource. Mais l'environnement, c'est aussi une victime collatérale des conflits. Et puis, c'est potentiellement une arme de guerre. Mais c'est aussi un sujet apolitique qui peut permettre de se mettre à la table des négociations de paix. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte pour traiter de ce problème.
Simon Rosé.
Oui, ça me fait penser sur la notion de perte irrémédiable. Et en Syrie, justement, il y a ce qu'on appelle des banques de graines où on stocke. Il y a des organismes régionaux qui stockent comme ça des graines qui ne sont plus cultivées aujourd'hui, qui risquent de disparaître. Et en Syrie, il s'appelle l'Icarda. Et il y a le super coffre à graines qu'on a mis au Svalbard, au nord de la Norvège, qui est construit dans une montagne complètement gelée pour garder dans cette espèce de frigo naturel. Ce coffre n'avait jamais été ouvert. Et il y avait des graines syriennes dedans. Graines qui, en Syrie, il y avait des copies avait été détruite lors de la guerre de 2014. Et pour la première fois, le coffre du Svalbard a été utilisé pour aller chercher les graines qu'on avait sauvegardées à cette occasion pour les replanter ailleurs, dans le Maghreb, je crois. On avait fait le sujet à l'époque. Et du coup, il y a quand même des moyens. Ce qui est fou, c'est que ce système de sauvegarde des graines, il avait été mis en place en cas de maladie qui toucherait les cultures, en cas de sécheresse qui nous ferait perdre des espèces de cultures. Et en fait, c'est la première fois qu'on l'a utilisé, où on a ouvert les portes de ce coffre-fort. C'est en raison d'une guerre, puisqu'il y avait des graines qui avaient disparu de l'endroit où elles étaient cultivées, en l'occurrence en Syrie.
Sachant que ce coffre-fort avait été assez critiqué, parce que stocker des graines sans leur écosystème, est-ce qu'après, quand on les réintroduit dans les sols, elles sont capables de repousser à l'identique? C'est une vraie question, donc il va falloir aller voir où ça en est maintenant qu'elles ont été ressemées, par exemple au Maghreb. Il va falloir qu'on suive tout ça. Partons maintenant au Maghreb, justement en Algérie, en musique avec Dandana et son titre Shadi Madi. Nous sommes mercredi et vous êtes bien sur RFI.
صعب علي زمان كان يا ما كان وين كنت صغير وين أمن بالماريكان ونشوف بويا بين الدار والدكان ما عندي صور دي نمشي غير بلسان حتى سمعوني أنا يا الفنان يا قالوا راح طاح في القدرة ما بان ما عندي عرف ما عندي كتاف ما نعرف حد من غير شيخ الدبان يا أنا محتاج ما نعرف التاج اللي يستعرف ما بقى لي والو في تلمسان شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي نروح شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي نروح شافور في بلاد النور عديان ولا وصحابي حبوا قاع يخطبوا لي كي شافوني جبت الديبلو لو كان جيت في بلاصتي اش تختار يا المختار بين العار والاسبوار ارمي اللي ما يفيدك الصاحب غير من جيبك قبل ما يدربك الكار هادي حكايتي الشبيبة حرة وجزائرية لي ما نساواش اللي صار شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي نروح شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي نروح شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي نروح شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي نروح
Shadi Madi, c'est le titre du chanteur algérien Dendana que vous pouvez retrouver sur la playlist de RFI disponible sur vos plateformes préférées.
RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez le club de C'est pas du vent qui donne la parole aux journalistes qui traitent des sujets environnementaux sur RFI et ailleurs. Et chaque semaine, nous mettons aussi en avant un film amateur du réseau Hip-Hop pour Petites Ondes Participatives, un réseau qui recueille des témoignages pour humaniser le débat. C'est une chronique de Caroline Fillette.
Aujourd'hui, direction La Réunion pour le film Hip-Hop intitulé « Les déchets dégringolent ». Dans ce film réalisé par Hermione Raza-Finarivo et Pablo Muisset, on suit le plongeur et apnéiste Thierry Pérez. Et les images sont terribles. Les fonds marins, au fil des ans, sont devenus une véritable poubelle, jonchée de plastique, câbles, tissus. Une catastrophe pour les animaux et les coraux. Je vous propose d'écouter un extrait de ce reportage et nous retrouverons ensuite Pascal Chabanet, spécialiste de l'écologie des poissons récifaux à La Réunion, qui nous apportera son éclairage.
Quand on voit ce site comme ça, qu'on plonge pour la première fois, on le trouve magnifique. Effectivement, il est encore magnifique, mais c'est vrai que sur le temps, j'ai pu voir évoluer certaines choses plutôt négativement. Et surtout au niveau de tout ce qui se passe au niveau des pollutions diverses qu'il y a sur le site. Comme c'est une concentration ici avec les courants, donc il y a beaucoup de déchets qui arrivent de toutes sortes. J'ai filmé des tortues en difficulté avec du fil de pêche attaché sur les pattes. Quand on a vu des massifs de coraux magnifiques et qu'au fur et à mesure on voit qu'il y a des branches qui disparaissent du corail, qu'on voit qu'il y a une nécrose générale de l'ensemble du corail, ça interpelle, donc on s'est dit il se passe quelque chose. Donc avec des amis, depuis pas mal d'années, on fait des opérations de nettoyage sur ce site. Et si on n'avait rien fait, il n'y aurait plus de corail. Franchement, quand un corail est infesté de câbles et de tissus qui se collent dessus, il est mort. Ensuite, il y a la fréquentation qui devient énorme sur le site, une pression énorme, aussi bien au niveau d'un nombre de plongeurs énorme, au niveau du nombre de pratiquants de la pêche, ou des pique-niqueurs qui souvent laissent leurs déchets, qui finissent automatiquement dans l'eau parce qu'il y a un petit coup de vent, tout dégringole en bas. Le côté positif, c'est que j'ai vu... Depuis les années 90, j'ai vu quelques animaux réapparaître comme des tortues. Mais ça ne suffit pas. Il y a eu de gros dégâts depuis. Hein. Et ça, il faudrait que tout le monde en soit conscient, et c'est loin d'être le cas.
Pascale Chabanet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, spécialiste de l'écologie des poissons récifaux à La Réunion. Qu'avez-vous ressenti en voyant ce film ?
Alors, ce petit film, je ressens exactement en fait ce que dit Thierry Péaz dans la vidéo. C'est vrai qu'il y a une augmentation des déchets dans les fonds marins à La Réunion. Et cette dégradation, en fait, par les déchets, en fait, vient aussi du fait que La Réunion est une île volcanique et jeune, avec des pentes importantes qui descendent vers la mer. Et du coup, tous les déchets, s'ils ne sont pas ramassés, vont finir inexorablement à la mer. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à La Réunion, on a une augmentation de la population qui est très importante, hein, puisque depuis les années 60, la population a plus que doublé. Donc, plus de monde, évidemment, plus de déchets.
Vous êtes née et vous avez grandi à La Réunion, donc, et vous y plongez régulièrement pour vos recherches. Tout comme Thierry Pérez, constatez-vous que les fonds marins réunionnais ne sont plus ceux de votre enfance ?
Les récifs de mon enfance étaient des récifs qui étaient très colorés. Hein. Cet univers coloré a fait un peu la magie de mon enfance. Et c'est vrai que même si vous ne connaissez rien à la biologie et à l'écologie des coraux, vous savez si un récif est dégradé ou pas en fonction des couleurs que vous percevez. Et donc, plus il y a de couleurs, plus il va bien. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de couleurs.
Oui, les conséquences liées à cette pollution sont vraiment terribles pour la faune et la flore aquatique. Thierry Pérez utilise même le terme de nécrose générale de l'ensemble du corail. C'est absolument terrible de parler de nécrose. Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs, Pascal, l'importance du corail pour un bon fonctionnement de l'écosystème marin ?
Il y a une image qu'on emploie souvent qui est assez parlante. On compare souvent les récifs coralliens en forêt tropicale. Je dis souvent que le corail est aux poissons ce que l'arbre est aux oiseaux. Donc, on comprend bien le rôle de cette forêt tropicale sous-marine qui abrite plus de 30% des espèces marines qui ont été inventoriées pour à peine 0,02% de la surface des océans. Donc, vous voyez, il y a vraiment une très forte concentration de biodiversité. Et ce réservoir, en fait, il nous rend beaucoup de services. D'abord, les coraux sont des puits de carbone, tout comme les crustacés, les mollusques ou le plancton qui absorbent le carbonate de calcium pour construire leur squelette ou leur coquille en calcaire. Donc, ils vont jouer un rôle essentiel dans le stockage du carbone. Et c'est ce carbone qui est en partie responsable des problèmes de changement climatique. Un autre rôle aussi qui joue, ce sont des barrières naturelles importantes pour protéger les populations littorales contre les vagues, les cyclones ou les tsunamis. Donc, ils vont protéger les côtes de l'érosion des vagues. Ils sont aussi une source de nourriture pour les populations locales. Et ils sont aussi une source de revenus à travers la pêche et le tourisme. Donc, ils jouent un rôle socio-économique qui est essentiel.
Oui, donc c'est très important de faire prendre conscience à la population et aux nouvelles générations de l'importance du corail et de la préservation de l'écosystème. À ce sujet, Pascal Chabanet, pouvez-vous nous parler du projet Pareo ? C'est quoi ce projet ?
Alors, Pareo, c'est un projet, ça veut dire patrimoine récifal océan Indien entre nos mains. Donc, c'est un projet d'éducation à l'environnement pour la protection des récifs coralliens de l'océan Indien. Donc, c'est un projet que l'IRD coordonne depuis 3 ans. Et en fait, l'originalité de ce projet, il tient à la collaboration entre les scientifiques, les professeurs des écoles, et les acteurs de l'environnement en général, en fait, pour transmettre les connaissances de manière ludique aux enfants. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est qu'on va vraiment jusqu'au bout de la démarche en incitant les jeunes à passer à l'action à travers des méthodes d'éducation active. Et une fois que les jeunes sont sensibilisés, ils vont transmettre à leur tour leurs connaissances à leurs parents, aux amis et même aux élus, puisqu'il y a un conseil citoyen dans certains cas qui sont créés par les enfants. Et en fait, juste pour, je pense que pour moi, en tout cas, les enfants sont les meilleurs ambassadeurs de la protection des récifs coralliens. Donc voilà, c'est vraiment le relais qui est donné à ces citoyens de demain et ambassadeurs de la protection des récifs coralliens dans le projet Paréo.
Ouais, c'est un très très beau projet. Alors ce film hip-hop, hein, Les déchets des gringoles, a été réalisé en 2021. Pensez-vous que les Réunionnais sont plus sensibles à la santé de leurs fonds marins qu'il y a quelques années ?
Oui, je pense qu'il y a une évolution des consciences dans la population réunionnaise. Et d'autant plus que les Réunionnais sont assez, on dit souvent qu'ils tournent le dos à la mer, parce qu'en fait, à La Réunion, on a une mer qui est assez, qui n'est pas très accueillante, sauf au niveau des récifs coralliens sur la côte ouest. Mais je pense qu'avec l'école, toutes les campagnes de sensibilisation qui existent aujourd'hui, donc je pense qu'il y a quand même une évolution chez les Réunionnais d'aujourd'hui par rapport à ceux d'il y a encore, je dirais même une cinquantaine d'années, même moins, mais en tout cas, voilà, ils sont beaucoup plus aujourd'hui tournés vers la mer.
Bon, c'est encourageant pour la suite. Merci beaucoup, oui, Pascal Chabanet.
Je vous en prie.
Merci.
Merci beaucoup.
Et oui, merci Caroline, merci Gaëlle Flaugère qui anime la communauté hip-hop avec Max Ball de RFI Planète Radio et merci bien sûr aux équipes de l'IRD, l'Institut de la Recherche pour le Développement. Alors mi-avril, on en avait parlé hein, dans ce club de C'est pas du vent, Simon Rosé, l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique a lancé une alerte pour prévenir que pour la deuxième fois en 10 ans, le monde connaît un épisode massif de blanchissement des coraux du fait de températures océaniques records et c'est un phénomène qui s'explique en partie par le phénomène El Niño qui se superpose au changement climatique. Et demain, sur RFI, nous faisons une émission, une journée spéciale avec plusieurs émissions et plusieurs reportages consacrés à ce phénomène El Niño.
Oui, ça va être à suivre toute la journée dans les journaux d'édition d'information avec des reportages en République démocratique du Congo, Denise Maéo qui revient de Kalemie, au Kenya, sur les inondations également, notre envoyé spécial permanent à Nairobi, Gaël Lalex s'y est rendu, et le merveilleux Igor Strauss
qui est
avec
sur
nous
tous
dans
les
ce studio, qui revient de Zambie où c'est cette fois une sécheresse très intense qui frappe le pays. On y reviendra également avec vous, Anne-Cécile.
Oui, dans C'est pas du vent, spécial El Niño, et avec Juan
Gomez dans Appel sur Actualité, où je serai également présent pour répondre à vos questions, amis auditeurs. Igor reviendra parler de ça dans Témoins d'Actu avec Alexandra Cagnard. Et ça va se prolonger tranquillement également jusqu'au week-end avec des reportages, notamment le reportage Afrique, jusqu'à dimanche. Donc c'est assez à suivre sur les antennes de RFI, mais principalement toute la journée de demain.
Voilà, et rendez-vous donc demain à 8h10, temps universel.
Et sur RFI.fr également.
Oui, bien sûr. Et rendez-vous donc demain à 8h10, temps universel, dans l'émission de Juan Gomez, Appel sur l'actualité, pour échanger et poser toutes les questions que vous souhaitez, chers auditeurs, sur ce phénomène El Niño. RFI émet en 15 langues et figurez-vous que dans chaque langue, il y a un référent environnement et nous leur donnons la parole dans C'est pas du vent.
RFI. Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde.
Es la migración más importante de insectos.
Barca mărsa ce că sunt ceva.
C'est pas du vent.
Добрый день, вы слушаете подкасты Международного французского радио RFI.
Heng Goodum, vous êtes journaliste à la rédaction cambodgienne de RFI. Et alors aujourd'hui, à Phnom Penh, 10 jeunes militants de l'environnement sont jugés. Parmi eux, il y a un ressortissant européen, un espagnol. Alors pourquoi sont-ils jugés ?
Anne-Cécile, il faut d'abord préciser que ces militants sont des membres de Mother Nature Cambodia, une association fondée il y a plus de 10 ans. Cette organisation est très active dans des dénonciations des actions du gouvernement qui portent atteint à l'environnement, comme des affaires de déforestation ou d'exportation du sable vers Singapour. Anne-Cécile, selon l'annonce du paquet du 30 avril, le procureur adjoint Seng Hien a donc accusé ces 10 activistes de trahison à la nation et de crimes de lèse-majesté. L'accusation de lèse-majesté étonne tout le monde, mais ce n'est pas la première fois pour ces activistes. ils subissent plus depuis longtemps des pressions du gouvernement. Ils ont déjà eu des ennuis avec la justice. Certains d'entre eux ont déjà connu la prison. Les ONG pour la défense des droits de l'homme dénoncent cette comparution devant le tribunal qui, selon eux, a pour but, pour objectif de dénoncer, de décourager les jeunes de se manifester au profit de l'environnement.
Alors sur le banc des accusés, il y a donc 9 Cambodgiens qui sont des jeunes, des enseignants et un Espagnol, Alejandro González Davidson. Que fait-il au Cambodge?
Il parle couramment le cambodgien. Il se débat depuis longtemps contre la déforestation de... contre pour la défense de l'environnement au Cambodge. C'est Alejandro González Davidson qui a créé l'association Mother Nature Cambodia. Il a été expulsé du pays depuis 2015. Depuis, il a été qualifié par les autorités de persona non grata et son organisation pour la protection de l'environnement a été dissoute par le ministère de l'Intérieur. Pourtant, son engagement continue. Il manifeste depuis l'étranger et il continue de soutenir son mouvement Mother Nature Cambodia. Concrètement, il sensibilise les jeunes cambodgiens. Il est une source d'inspiration pour les jeunes. Et comme il ne peut pas mettre les pieds dans le pays, il fait des campagnes de financement et de sensibilisation depuis l'étranger pour la cause qu'il vit, tient vraiment à cœur.
Alors, pardon.
Dernières années, son organisation Mother Nature Cambodia a remporté 2 prix internationaux pour la protection de l'environnement, Frontline Defender de l'Irlande et un autre prix de Suède.
Alors, dans une autre province du Cambodge, au centre du pays, des milliers de poissons ont été retrouvés morts à cause officiellement de la chaleur, mais surtout de la pollution aux produits chimiques. Cette pollution, elle a donc tué des milliers de poissons qui ont été retrouvés dans cette rivière. Et là, il y a un peu 2 versions. Il y a une version qui est celle de la version officielle des autorités qui disent que c'est à cause d'une vague de chaleur. Et puis la version de la population qui dit oui, peut-être que c'est lié plutôt à une pollution de produits chimiques.
Oui, cette affaire provoque un débat sans fin depuis plusieurs semaines dans la province de Kampong Thom, dans le centre du pays Khmer. Et cela se passe dans la rivière nommée Tinet, une des principales rivières de la province. Depuis 2 semaines, ce sont des milliers de poissons qui sont morts. Les images sont impressionnantes et vues par des nombreux internautes cambodgiens. Les riverains sont persuadés que la pollution est due à des produits chimiques et des villageois pointe du doigt une compagnie d'extraction minière chinoise dont les eaux usées seraient déversées dans la rivière. Des pêcheurs locaux et les villageois s'inquiètent de conséquences car toute l'économie de cette province dépend de la pêche. À cela s'ajoute la crainte de la perte de biodiversité et de nombreuses familles dépendent uniquement de la pêche pour se nourrir, mais réticents, de nombreux villageois n'osent plus manger de poissons dans cette rivière. Notre bureau local de RFI au Cambodge a envoyé sur place notre reporter Seigne Barin. Écoutez le témoignage de Monsieur Koukoui, fonctionnaire à la retraite et représentant de la communauté des pêcheurs.
Il y a au moins 2 ou 3 sources au problème de la pollution de l'eau dans cette rivière. Tout d'abord, c'est à cause de l'utilisation de produits chimiques et des pesticides dans les champs de cajou et d'EVA. Et puis, il y a aussi l'extraction de l'or dans la mine de la montagne de Chinit par la compagnie chinoise, où se trouve la source de la rivière. Et l'eau usée, utilisée pour la production minière, est rejetée dans la rivière. Lorsqu'il y a de fortes pluies, comme la semaine dernière, alors l'eau transporte tous les produits chimiques vers la rivière. L'eau devient noire et gravement polluée. Quant à son odeur, elle est vraiment insupportable. Et c'est pour cette raison que tous les poissons, qu'ils soient petits ou grands, ont été empoisonnés et sont tous morts.
Et aujourd'hui, la porte-parole du ministère de l'Agriculture a fait des déclarations à ce sujet.
Oui, aujourd'hui, la porte-parole du ministère de l'Agriculture, des forêts, de la chasse et de la pêche fait une enquête. Et après, ils ont trouvé que la cause de la mort de ces poissons était due à la chaleur. Et ce n'est pas la première fois que ce phénomène a été eu lieu. Et il y a 10 ans, plusieurs tonnes de poissons avaient péri dans les conditions similaires dans les autres provinces comme Pongchang et Kampongcham.
Merci beaucoup. Restez avec nous sur RFI. Nous continuons à commenter l'actualité environnementale pour vous. Mais d'abord, voici l'artiste britannique Holly Cook et son titre Body Beat. Et son titre Body Beat sur RFI.
RFI. Le club de C'est pas du vent sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'est pas du vent@rfi.fr.
Simon Rosé, je rappelle que vous êtes le chef du service environnement de RFI et vous souhaitiez nous parler du pic des émissions de gaz à effet de serre en Chine. C'est peut-être une bonne nouvelle.
Probable.
Encore faut-il expliquer de quoi il s'agit.
La Chine, premier pays émetteur au monde, et selon les dernières données qui sont sorties au mois de mars dernier, en fait, les émissions chinoises auraient baissé de 3%.
Alors, émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique.
Anthropique, donc, c'est-à-dire causé par les activités humaines. En Chine, elles auraient baissé donc ces émissions de moins 3% en mars dernier. C'est notable parce qu'on était sur une série de hausses consécutives pendant 14 mois. En fait, c'est depuis la sortie du Covid que les années 2020-2021 et la survenue du Covid que les émissions chinoises étaient en rebond. Et là, enfin, on arriverait peut-être à ce pic d'émissions avant un déclin structurel des émissions chinoises. C'est dû à plusieurs choses. Il y a tout d'abord ce côté un peu contre-intuitif. En fait, la Chine dépend encore énormément du charbon. C'est une électricité qui est très carbonée en Chine et notamment à cause du charbon. Charbon qui, on le rappelle, est la source d'énergie la plus émettrice en termes de gaz à effet de serre. Et on électrifie les besoins en Chine. Pour se passer
notamment
du pétrole,
par exemple,
maintenant on estime par exemple qu'une voiture sur 10 qui roule sur les routes chinoises est une voiture électrique. Il faut de l'électricité, donc on a une demande d'électricité qui monte, donc il faut installer des moyens de production à côté. La Chine y va très fort sur les renouvelables, le photovoltaïque notamment, mais construit également des centrales à charbon. Et en fait, tout l'enjeu pour commencer à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, c'est que la hausse des moyens de production renouvelables augmente plus que la hausse de la demande. Comme ça, le renouvelable peut commencer tranquillement à grignoter, entre guillemets, des parts de marché. Au charbon, c'est ce qu'on est en train de voir. En tout cas, du moins, on a l'impression, c'est les conclusions que tirent les analyses de ces premières données de mars, corroborées par les chiffres d'avril qui, si même ils ne sont pas encore consolidés pour l'instant, vont un peu dans la même direction. Donc, on serait vraiment sur un phénomène qui serait structurel et pas conjoncturel. C'est là tout l'intérêt, c'est pour ça que je le pointe aujourd'hui. Couplé à un ralentissement quand même, il faut le noter, de l'activité de construction en Chine, je crois qu'on est sur du moins 8% pour le ciment.
Donc on consomme moins d'électricité.
Pour la construction et la conception de ciment d'acier. Qui sont très énergivores, mais surtout qui utilisent des phénomènes physiques, le ciment, pour faire du ciment, l'action chimique pour le faire émet également. Le ciment à l'échelle mondiale, c'est l'ordre de 5-6% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Donc il y a ces deux phénomènes conjugués. La Chine, il va très fort sur les renouvelables, au point de commencer à grignoter sur la part du charbon. Et en plus, ce ralentissement du secteur immobilier en Chine, qui lui aussi a l'air d'être structurel. Donc, a priori, on serait sur la voie du pays le plus émetteur au monde qui passe son pic d'émissions. Ce serait à noter, puisque ça veut dire qu'à partir de maintenant, soit on reste sur un plateau et ce serait pas top, soit ça continue à descendre. Rappelons que la Chine a pour objectif d'atteindre le net zéro, comme on dit, donc ne plus émettre de gaz à effet de serre en 2060.
Mais il n'y a pas d'effet rebond par rapport au Covid?
Eh bien justement, c'est là on en sort, puisque la Chine a sorti la fin de la politique zéro Covid en Chine, si je ne dis pas de bêtises, c'est décembre 2022, donc un peu plus tard que dans le reste du monde. On se souvient que la Chine a gardé pendant très longtemps des mesures assez restrictives. Là, on est 14 mois plus tard. Et on voit enfin les émissions qui commencent à baisser. Donc on serait sorti de cette phase de rebond qui a duré 14 mois depuis la sortie du zéro Covid en décembre 2022.
Donc c'est une bonne nouvelle à confirmer,
a priori,
à suivre
une bonne
de près.
Nouvelle et à pointer et à suivre de près, oui, en effet.
Igor Strauss, vous vouliez revenir sur la terrible sécheresse qui sévit actuellement au Mexique. Mexico City et ses 22 millions d'habitants s'approchent du stade appelé jour zéro.
Exactement. Alors samedi, il faut savoir, Mexico a battu son record de chaleur avec 34,7 degrés. On est loin des 52 degrés enregistrés aujourd'hui en Inde. Sauf que Mexico est situé à 2240 mètres d'altitude, avec normalement une chaleur tempérée. On ne connaît pas ces fortes chaleurs. Je voulais donc profiter de cette occasion pour parler de ce fameux day zero, le jour où il n'y aura plus d'eau au robinet. Selon certains spécialistes, ça pourrait arriver très prochainement, le 26 juin. Il y a cela plusieurs explications. Déjà, le système de barrage, en fait, qui fournit 25% de l'eau de la ville est saturé avec la méga sécheresse. Depuis les années 2000, il faut savoir qu'il y a une méga sécheresse entre l'ouest des États-Unis et le nord du Mexique, accentuée évidemment cette année 2023-2024 par le phénomène El Niño. Donc, barrage à sec, manque de ressources hydriques, évidemment. Mais ce qui est intéressant aussi dans tout ça, c'est que le Mexique, c'est un peu le symbole de tout ce que ne doit pas faire l'homme et tout ce que l'homme a fait. Alors, on pourrait remonter très loin. On pourrait remonter au temps des colons hispaniques. Vous savez que Mexico est une ville qui a été construite au bord d'un lac. Le lac Texcoco, il y avait énormément d'inondations. Je parle de ça, c'était il y a 500 ans. Mais ça fait partie, si vous voulez, de l'action de l'homme. Il y a eu des dégâts terribles pour l'environnement. Et les colons hispaniques, à l'époque, ont voulu assécher ce lac. Première erreur. Aujourd'hui, on manque d'eau dans le pays. Il faut savoir qu'en moyenne à Mexico, un habitant, alors c'est des moyennes, hein, évidemment, consomme 350 litres d'eau par jour. C'est considérable. Il y a plusieurs facteurs. Alors, manque d'eau, mais du coup, on exploite énormément les nappes phréatiques, notamment l'industrie bovine, l'industrie laitière. Il n'y a pas de système de retraitement des eaux usées. Donc, les eaux usées se mélangent aux eaux propres. On n'exploite pas l'eau de pluie. Et si vous voulez, tout ça mis bout à bout fait qu'on arrive à cette situation catastrophique. Moi, j'ai beaucoup parlé du sujet à Cape Town. Vous savez, Cape Town,
en
Afrique du Sud, entre 2015 et 2018, il y a eu ce fameux D-Day à Cape Town. Pour vous donner un exemple, c'était de 200 litres par jour consommés par habitant. Il a fallu passer à 50 et il y avait la menace de passer à 20 litres par jour. Je crois qu'on ne se rend pas compte de ce que ça représente pour un habitant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de laver sa voiture ou d'arroser son jardin. Là, c'est d'un coup, c'est on prend une douche avec 3 litres d'eau dans un bac, on récupère ce bac pour remettre dans ses toilettes.
Ça ne s'appelle plus une douche d'ailleurs.
On mange dans une vaisselle en carton parce qu'on ne peut plus faire la vaisselle. Enfin, c'est des conséquences qui sont hallucinantes. Et je crains que, comme les Sud-Africains ne se rendaient pas compte un peu du choc jusque ça arrive, jusqu'à ce qu'on leur dise il n'y a plus d'eau, je crois qu'au Mexique, c'est un peu la même chose. Il y a un manque de prise de conscience. J'extrapole, mais nous, on a connu ça avec le Covid. On nous dit le Covid arrive et puis on n'y croyait pas vraiment. Et puis d'un coup, le Covid arrive. Et c'est là, il faut prendre des mesures drastiques. Alors, les Sud-Africains l'ont fait. Et dernier point, Anne-Cécile, vous savez, on dit toujours il faut agir pour l'environnement, pour les générations futures. Non, en fait, il faut agir maintenant, tout de suite, pour nos générations.
Oui, aujourd'hui, on subit déjà les conséquences du changement climatique.
L'Afrique du Sud n'a plus d'eau. Bientôt, ça sera Miami. Bientôt, ça sera l'Inde. Bientôt, ça sera l'Australie.
C'est
Barcelone. Le D-Day, là, on propose des solutions. La désalinisation,
ça coûte très cher et c'est très polluant. Et ça consomme beaucoup d'énergie.
Et ça consomme beaucoup d'énergie. Mmh. Voilà, donc il y a des solutions, on le sait. En Afrique du Sud, ils voulaient faire plein de petites unités. On leur a demandé de faire des méga unités. Mais voilà, les solutions, elles ne sont pas forcément bonnes pour l'environnement. L'eau, aman-iman, comme on dit dans le désert, l'eau, c'est la vie. Et je rappelle juste que, selon l'OMS, chaque individu a besoin de 50 litres d'eau par jour. Il y a 2 milliards d'humains qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc nous qui avons accès, faisons attention à cette ressource, ne faisons pas n'importe quoi, ayons conscience qu'elle est presque finie, et voilà.
Le message est passé. Jennifer Gallet, vous vouliez réagir.
Oui, alors pour réagir à ces jours zéro, parce qu'en effet, il y a le Cap, il y a eu Sao Paulo, il me semble que récemment, il y a eu Bogota. Et puis, l'année dernière, en France, il y a eu des villages de Pyrénées-Orientales qui n'ont pas eu d'eau du tout. À qui on a apporté des bouteilles d'eau en plastique. Et nous, c'est un sujet qu'on va creuser là, sur Vert. On va faire toute une série là cet été qui s'appelle Au secours, parce qu'on a bien les jeux de mots chez Vert. Et on va parler de ces histoires de raréfaction de la ressource et de tout ce qui accentue, dont El Niño et le réchauffement climatique.
Et un dernier
sujet,
point.
Igor, nous arrivons à la fin de l'émission.
Non, mais c'est le gaspillage des eaux à Mexico. C'est 38% de l'eau qui n'arrive pas au robinet, elle est gaspillée. Ça, c'est pareil, c'est flagrant. Il faut arrêter de gaspiller de l'eau.
On l'a bien compris et vous avez bien raison d'insister. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Caroline Fillette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.